Nous allons voir ensemble maintenant les œuvres de la chair. La chair, c'est-à-dire notre vie naturelle, a de nombreuses manifestations. Nous avons compris comment elle est hostile à Dieu et comment elle est incapable de lui plaire. Et je crois que nous ne mesurons pas en tant que croyants à quel point Dieu voit la chair indigne, pervertie et souillée. La chair, c'est la vie naturelle. Et il faut véritablement la révélation du Saint-Esprit pour pouvoir nous révéler toute l'horreur qu'elle représente à Dieu lorsqu'elle est utilisée pour, entre guillemets, l'honorer. Chacun de nous, nous avons cette capacité de reconnaître les manifestations de notre propre vie naturelle. Si je veux être véritablement en accord avec moi-même, je vais bien remarquer la pression que ma vie naturelle, que ma pensée rationnelle, que mes émotions vont prendre dans cette recherche de la marche avec Dieu. Et c'est ce qui est appelé dans Éphésiens 2, 3, les volontés de la chair et de nos pensées. Elles ne peuvent pas plaire à Dieu. Elles ne peuvent pas plaire à Dieu. Paul, dans son épître aux Galates, nous donne au chapitre 5, au verset 19, la liste des œuvres de la chair, des péchés de la chair, afin que personne ne puisse dire moi je ne sais pas. Donc elles sont énumérées. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors moi, je vous conseille véritablement, c'est de prendre plusieurs versions de Bibles différentes et de voir et de lire cette traduction, parce qu'elle est souvent plus compréhensible dans une version que dans une autre, suivant notre culture, suivant notre origine. Donc c'est Galates, l'épître aux Galates, chapitre 5, versets 19 et 21. Donc en fait, l'apôtre Paul déclare simplement cette chose-là, que les œuvres de la chair sont manifestes. Si elles sont manifestes, c'est-à-dire que nous pouvons les voir. C'est-à-dire que tout le monde peut les voir. Personne n'a le droit de dire, mais moi je ne sais pas de quoi il en retourne. Quiconque tient vraiment à comprendre ce qui se passe dans sa marche chrétienne, les reconnaîtra. On n'a qu'à se poser cette question, est-ce que je me laisse aller à l'une ou à l'autre de ces choses qui sont énumérées? On peut en quelque sorte classer ces œuvres de la chair en 5 groupes. Le premier, c'est les péchés qui souillent le corps. Vous savez que péché dans la Bible, cela veut dire manquer la cible. Nous réduisons souvent le péché à une dimension morale, simplement. Et en fait, chaque fois que nous manquons le plan de Dieu dans un domaine ou dans un autre de notre vie, nous manquons la cible de Dieu. Donc, la première catégorie de péché, c'est ceux qui souillent le corps. L'impudicité, l'impureté, la dissolution. La deuxième classe, on va dire, ce sont les péchés de communication surnaturelle avec le monde satanique, avec le monde occulte, le monde des ténèbres, tels que la magie, l'idolâtrie, la sorcellerie. Un troisième groupe, ce sont les péchés qui sont issus de notre caractère, de notre tempérament, tels que les animosités, les disputes, les jalousies, la colère. C'est des péchés issus de notre tempérament. Quatrième groupe, eh bien, ça va être toutes les prises de parti, les sectes, les partis religieux, et ça va être provoqué par l'égoïsme, l'esprit de division, l'esprit de parti, l'envie. Enfin, dernier groupe, tout ce qui va nous porter à la luxure, telle que l'ivrognerie, les excès de table, les addictions partout, on va exagérer. Donc, connaissant cela, je vais reprendre les cinq groupes. Les péchés qui souillent le corps, et essentiellement donc la dimension sexuelle. Les péchés de communication surnaturelle, c'est tout ce qui va être l'occulte. Les péchés issus du tempérament que nous manifestons, c'est tout notre caractère, hein, qui n'est pas en ordre avec la vie normale d'un chrétien. Le quatrième groupe, ça va être tout ce qui va nous entraîner dans le social négatif, les sectes, les partis religieux, etc., qui vont être provoqués par l'égoïsme, les divisions, l'esprit de parti. Et puis, les péchés liés à la luxure, c'est-à-dire à tous les excès, on va dire, de la bouche, en quelque sorte, l'ivrognerie, les excès de table, les addictions, etc. Alors, peut-être que parmi ces cinq groupes, nous distinguons certains péchés qui nous paraissent moins graves que d'autres, et puis d'autres qui corrompent davantage. C'est vrai, il y a certaines erreurs, certains errements sont plus raffinés que d'autres, mais Dieu nous révèle qu'ils viennent tous de la même source, c'est la chair. Peu importe leur importance, leur gravité, mais c'est leur origine, leur source, c'est la chair qui mène à la mort. Et seul le Saint-Esprit va pouvoir non seulement nous enseigner sur ce qu'est les œuvres de la chair, nous les démontrer, nous les faire reconnaître, mais il va, et c'est son rôle, il va nous convaincre de péché. Il va nous persuader que ce que nous faisons, ou ce à quoi nous sommes soumis, ou contraints, n'est pas bon devant Dieu, n'est pas juste devant Dieu, dévie du plan de Dieu. Sans cette révélation du Saint-Esprit sur la vie de l'homme, l'homme ne pourrait pas non plus venir à Dieu. Il ne pourrait pas. Il y a besoin de ce travail du Saint-Esprit qui nous est donné après l'œuvre de Jésus-Christ à partir de la Pentecôte. Il est dit que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, même sur la chair du non-croyant. Donc le Saint-Esprit a cette capacité de révéler à l'homme où il en est dans son comportement, dans sa relation à Dieu. Quelle est sa source de vie ? Quelle est sa source de vie ? Et cet homme, cette femme, ne pourront devenir réellement spirituels que s'ils discernent ce caractère foncièrement corrompu et méprisable de sa chair, de sorte qu'ils viennent à la prendre en dégoût et qu'ils cherchent la solution à son problème. Et c'est dans l'humilité, en reconnaissant cela, que le croyant va pouvoir grandir. C'est en reconnaissant qu'il a besoin d'une source autre que celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ va la chercher. Et c'est seulement dans la mesure où le croyant va être éclairé par le Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il y a de misérable dans sa vie, dans cette vie charnelle, c'est dans cette mesure-là qu'il va identifier la lutte avec la chair qu'il a à mener avec le pouvoir du Saint-Esprit. Et c'est vraiment merveilleux de savoir que le Saint-Esprit ne va pas nous laisser tout seul. Il va nous conduire, il va nous montrer. Il va nous montrer exactement le chemin que nous avons à prendre, parce que quand nous découvrons en fait l'incapacité de notre chair d'accomplir la volonté de Dieu, on pourrait peut-être être désespéré, se dire mais de toute façon on n'y arrivera jamais, donc c'est pas la peine de commencer. Et beaucoup de personnes en sont là, c'est pas la peine de commencer, de toute façon je n'y arriverai jamais. Et ça c'est une fausse pensée, une pensée qui vient directement de l'enfer, parce que nous oublions que le Saint-Esprit est là, il va nous convaincre de péché, et s'il l'a fait, il va continuer. Il va continuer son œuvre et son travail en nous, et il va nous conduire dans toute la vérité. Et lorsque nous connaîtrons la vérité, Jésus l'a dit, nous serons réellement libres. Beaucoup de croyants s'arrêtent en chemin. Beaucoup de croyants, découvrant l'horreur de leur vie naturelle, s'arrêtent en chemin. Croyant, acceptant le mensonge de Satan qui dit que de toute façon tu n'y arriveras jamais. Alors que c'est un mensonge directement venu de l'enfer. Si Dieu commence à juger notre vie, si Dieu commence à mettre son projecteur de lumière sur notre vie, il nous donne aussi le remède et il nous donne ce remède pour une pleine restauration. Dieu ne commence pas une œuvre sans la finir. Contrairement à Satan ou l'homme, nous commençons souvent beaucoup de choses sans arriver à pouvoir les finir. Le Saint-Esprit, lui, quand il commence une œuvre dans la vie d'un homme, il la termine. Mais bien sûr, il la termine toujours avec le consentement de l'homme. Et c'est souvent le consentement, c'est souvent la volonté de l'homme qui empêche le Saint-Esprit d'aller au bout de son travail. Le chrétien doit, le croyant doit continuer à marcher dans l'Esprit, par l'Esprit. Il n'a pas eu conscience quand il est venu au Seigneur qu'il marchait dans l'Esprit. Il n'a pas eu conscience quand il a mis sa confiance en Dieu que c'était ça la marche par l'Esprit. Mais il a eu confiance. Et cette confiance, c'est cela la foi. Mettre la confiance en Dieu, c'est cela la foi. Et on est obligé, tout le monde, c'est pareil pour tout le monde, si nous commençons par la foi, nous devons continuer par la foi. Et très souvent, et ça, c'est l'épître aux Galates, hein, l'apôtre Paul le reproche aux Galates, mais vous avez bien commencé par l'Esprit, mais alors continuez par l'Esprit. Pourquoi maintenant vous érigez des « il faut, tu dois » pour avancer avec le Seigneur? Vous avez commencé par l'Esprit, continuez par l'Esprit. Donc, nous nous souvenons que nous ne pouvons pas réparer la chair, nous ne pouvons pas l'éduquer, nous ne pouvons pas la changer, elle est morte. On ne peut pas toucher un mort, on ne peut pas éduquer un mort, on ne peut pas transformer un mort. Il faut le ressusciter ou il faut lui rendre la vie pour qu'il puisse vivre. Mais donc nous n'avons pas cette capacité de transformer notre chair et Dieu ne l'amène pas. Dieu a préféré mettre la chair de côté, la faire mourir dans la croix, mourir à la croix de Christ, l'enfermer en Christ, pour que nous puissions bénéficier de cette vie de résurrection et que nous soyons des vivants. Mais ne pensons pas que la chair est annulée. La chair, elle est toujours là. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le point de vue de Dieu. Il a renfermé tout le monde en Christ. Et il attend que chacun de ceux qui sont venus à lui, reconnaissant qu'il était le sauveur du monde, eh bien que chaque personne, chaque enfant, chaque vieillard, puisse lui-même, de sa propre décision, faire mourir les actions du corps. Avec la force, avec la source de vie, avec les moyens que Dieu met à sa disposition, c'est-à-dire le Saint-Esprit habitant en lui. La chair dans notre vie doivent mourir. Ça, c'est la méthode divine. C'est-à-dire que chaque jour, la chose est à recommencer. Nous sommes devenus chers parce que nous sommes nés dans ce monde. Ça, c'est l'entrée dans le monde. Et la sortie de ce monde, qui est couché sous le malin, eh bien, ça passe par la mort, tout simplement, pour nous faire vivre dans une autre sphère, dans un autre monde, en quelque sorte. La façon dont nous avons acquis cette vie charnelle naturelle est la façon dont nous devons la perdre. Puisque nous sommes devenus chers, en naissant de la chair, il s'ensuit naturellement que nous serons libérés de la chair si la chair meurt. Vous êtes bien d'accord avec nous. Et Dieu a décidé que la crucifixion était le seul et unique chemin. Romains, regardez avec moi Romains chapitre 6 verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Alors tout ce qui reste en deçà de la mort est futile. Le seul salut est dans la mort. Il faut le répéter. La chair est absolument corrompue. Regardez 2 Pierre, chapitre 2, du verset 10 au verset 22. Dieu donc n'essayera jamais de la changer. La mettre à mort est le seul moyen d'en être délivré. Même, le précieux sang du Seigneur Jésus est incapable de purifier la chair. Incapable. Pourtant, il n'y a pas chose plus puissante dans le monde que le sang précieux de Jésus-Christ. Les démons fuient quand ils voient le sang, quand ils entendent parler du sang. Nous trouvons dans la Bible comment il est dit que son sang, le sang de Jésus-Christ, lave notre péché. Mais il ne lave jamais notre chair. Le sang nous purifie de tout péché. Le sang nous nettoie du péché. Mais le sang de Jésus-Christ ne lave jamais notre chair, car notre chair doit être crucifiée. Notre chair doit être crucifiée. Galates 5, 24. Encore une fois, je le répéterai, le Saint-Esprit ne peut pas réformer la chair. Et il ne veut pas demeurer au sein de cette chair souillée. Sa présence, la présence du Saint-Esprit dans le croyant, n'a pas pour but d'améliorer la chair, mais de lui faire la guerre pour la faire collaborer avec l'Esprit de Dieu. Non, non, pas ça. Le Saint-Esprit n'a pas pour but d'améliorer la chair, mais de lui faire la guerre. Le Saint-Esprit ne peut pas réformer la chair. Et sa présence dans le croyant n'a pas pour but d'améliorer la chair, mais de lui faire la guerre. Galates 5, 17. Je le répète, sa présence dans le croyant n'a pas pour but d'améliorer la chair, mais de lui faire la guerre. Alors, mes amis, nous ne devrions jamais essayer de réparer la chair. Nous ne devrions jamais, frères et sœurs, essayer de réparer la chair pour la faire collaborer avec l'Esprit de Dieu. La chair est consignée à la mort. Et ce n'est qu'en la livrant à la croix que nous pouvons être libérés de la servitude qui nous assujettit.